Bonjour, vous êtes sur D4B 90.4 à Mel, 101.4 à Niort. Vous écoutez L'Oiseau Lire avec
Marie,
Dani,
Marie-Hélène.
Une émission pour vous faire partager notre amour des livres, nos coups de cœur. Dans Zao, Richard Texier, peintre d'origine niortaise, raconte son amitié avec le peintre franco-chinois Zhao Wuqi. Cette complicité de 20 ans où les deux hommes dialoguent sur l'art, peignent parfois ensemble, s'échangent leurs tableaux, est un délice. Le lendemain de notre première rencontre, un événement à première vue anodin fit naître en moi l'envie irrépressible de mieux connaître cet artiste franco-chinois avec lequel je partageais la résidence. Nous devions être prêts à midi et quart. L'attaché culturel de l'ambassade de France passait nous chercher, accompagné de quelques personnalités marocaines, pour nous rendre à l'invitation à déjeuner du directeur des musées de Rabat. À l'heure dite, 4 ou 5 voitures s'arrêtèrent devant notre villa, tous se saluèrent brièvement et nous partîmes, en laissant la maison au bon soin du gardien, Abid, qui était chargé de la surveiller en notre absence. Zhao Wuqi et son épouse Françoise s'installèrent dans le véhicule de tête. Je montais pour ma part à côté d'un peintre de Témara, dont j'avais fait la connaissance la veille au soir. Le cortège se mit en marche, mais s'arrêta brusquement une centaine de mètres plus loin. Je vis alors Wuqi sortir de son véhicule, montrer de la main la maison que nous venions de quitter et gesticuler au milieu d'un petit groupe qui venait de se former autour de lui. Que se passait-il ? Je sortis à mon tour et me dirigeai vers lui quand il m'interpella soudain en me demandant si je savais ce qui était prévu pour Abid. À quel sujet ? Pour son déjeuner, comment fait-il ? Il reste seul ? Qui va lui apporter à manger ? Personne ne savait. Les diplomates, les dignitaires présents étaient interloqués par la question, chacun s'empressant de répondre que le gardien se débrouillerait, qu'il avait l'habitude. Wuqi répondit que la villa était loin de tout, en plein cœur du quartier résidentiel, et que le pauvre homme ne pouvait pas quitter son poste ni entrer à l'intérieur puisque nous avions les clés. Il semblait perturbé que nul ne comprenne son inquiétude. D'un pas rapide, il remonta la rue jusqu'à Abid en s'enquérant de son sort. « Qu'est-ce qui est prévu pour vous, mon ami ?» L'homme ne répondait pas, paraissait gêné d'une telle sollicitude. Au Maroc, on ne se préoccupe pas ainsi du sort des employés. Tout rentra dans l'ordre quand l'un des chauffeurs marocains s'engagea à ce qu'un déjeuner lui soit livré dans l'heure. Il y veillerait personnellement. Wuqi était rassuré. Chacun regagna sa place et le cortège repartit. Il fallait s'élever jusqu'au dernier étage de l'immeuble sur rue pour accéder à l'atelier. Un ascenseur était prévu à cet effet. Il était équipé d'un siège de mandarin pour le transfert de Wuqi jusqu'à son espace céleste de création. Un grand mur au fond de la salle permettait d'appuyer la toile en cours et en accueillait une douzaine d'autres retournées. Le sol, recouvert d'un lino, collé aux pieds tant les couches de peinture à l'huile avaient du mal à sécher. Un vieux canapé accompagnait les méditations et les rêveries de l'artiste. Il se prolongeait d'une bibliothèque basse, exclusivement dédiée aux publications et monographies sur son œuvre. Le nombre en était aussi impressionnant que la liste des exégètes de sa peinture. Henri Michaux, Claude Roy, Pierre Dex. L'aquarium ronronnait dans le silence, tandis que des poissons tropicaux dansaient sur un écran miroitant. Il me dit un jour que ses taches multicolores, luisantes et fluides, l'apaisaient et stimulaient son imaginaire. Une palette maculée de couleurs broyées, de tubes entamés et de chiffons salis recouvrait un vieil établi. Une ou deux tables d'appui pour dessiner à l'encre de Chine, un meuble à tiroir pour abriter les feuilles d'arche et de papier de riz, un point d'eau pour nettoyer les pinceaux, un chevalet droit à manivelle complétait le décor. Rien n'était superflu. Chaque objet avait son usage. Ce strict minimum constituait le théâtre des opérations picturales et s'était peu à peu imposé comme la piste d'envol vers ses terres mentales. Henri Michaud dit de lui l'étoile de Zaouki. Cela se sait, ont une vertu. Elles sont bénéfiques. Wuki, lors de cette première visite, retourna un à un tous les tableaux au dos desquels était inscrit la date de création, les dimensions, ainsi que son nom au feutre noir. Certains châssis semblaient lourds, mais il refusa mon aide et m'imposa de regarder sans bouger. Tous me plaisaient, surtout un, bleu nuit, tourmenté à la matière chargée et dramatique, qui incarnait bien la force expressive de son style. Il l'avait peint 10 ans plus tôt. Je lui exprimais mes sensations face à chacune des toiles, le pouvoir d'évocation de la nature que m'inspiraient ses compositions abstraites et la sensibilité romantique et charnelle qu'elle dégageait. C'était la première fois que je regardais attentivement les œuvres de Zhao Wuki. Elle dégageait une impression de plénitude, de bonheur. Grâce à ses commentaires, je parvenais à mettre en perspective ses intentions, son parcours artistique. J'appréciais ma chance de l'entendre me raconter aussi simplement sa tentative, ses efforts et les obstacles qu'il avait dû surmonter. Les évocations de son passé le rendaient joyeux et son rire communicatif ne tardait jamais à ponctuer sa narration. J'ai appris par la suite à déchiffrer ce rire qui était sa meilleure protection.
Alexandre le Grand va mourir. Il s'adresse au dieu des morts qui vient le chercher. Il lui raconte sa vie. Le tigre bleu de l'Euphrate, de Laurent Godet. Je délire, oui. Je sens 1000 visions assaillir mon esprit. Les feuilles de mort me plongent dans un vertige d'hallucination. Des louves me lèchent les pieds. Des couleuvres glissent le long de mes côtes. Je suis en proie à la démence. Des couleurs violentes se déversent dans mon esprit, comme une pluie d'orage bigarrée. Seul, ton visage reste trouble. Est-ce que tu ne veux pas que je te voie ? Je sais qui tu es. Peu importe le nom que l'on te donne, Hadès, ou Tanafismit, ou Lamachtou, je sais qui tu es, tandis que toi, tu essaies de sonder mon âme et n'y parviens pas, et tu te tiens devant ce gouffre avec peur et curiosité. Je vais mâcher encore mes feuilles de mort, et même si le sol se dérobe sous mon corps, même si une nuée d'aigles à deux têtes fond sur moi, je continuerai. Et ton visage finira bien par se dessiner, car les feuilles dissiperont les brumes qui t'entourent, tandis que toi, plus nous avancerons, plus ton trouble grandira. Incapable de dire ce que je suis, homme ou bête, démon ou demi-dieu, incapable de mesurer mon âme, tu t'y perdras comme je me suis perdu moi-même, et ce trouble du moins nous unira. Inutile de chercher des yeux dans les salles où tu entasses les âmes, une ombre à qui me comparer. Je suis le plus grand et le plus misérable. Ma valeur est immense, et ma faute est un puits sans fond qui avalerait n'importe quel homme qui s'y pencherait. Oui, je suis le grec et le barbare, je suis le camarade et l'assassin. Oui, j'ai aimé la poésie et les orgies. J'ai contemplé la belle architecture d'une ville avant d'ordonner sans ciller qu'on la rase. Oui, je suis le pillard de trois continents et le plus humble des hommes. Je dois parler maintenant de ce matin à Tapsac. J'avais regroupé toute mon armée et nous marchions vers l'est. À Tapsac, sur les bords de l'Euphrate, nous avons planté notre campement. Les hommes et les bêtes se reposaient. Je devais trouver un moyen de franchir le vaste fleuve Achéménide. C'était le matin du sixième jour de repos. Je me suis levée avant le soleil. Sans réveiller personne, me faufilant en silence à travers les tentes, je suis allée retrouver Bucéphale. Je l'ai scellé et suis partie vers les berges du fleuve. Il faisait encore frais. La brume de l'aurore montait de la terre et c'était comme des nuages qui couraient à mes pieds. Tout dormait d'un silence de rêve. Aucun chant d'oiseau encore, aucun cri de bête, pas même le bruissement de l'eau que la brume semblait étouffer. Je contemplais ce grand fleuve barbare, la rive ennemie, là-bas, au-delà du cours infranchissable, et c'est là que je le vis. À une centaine de pas devant moi, avançant avec précaution dans les hauts roseaux du fleuve, un tigre bleu. Je crus d'abord que j'étais victime d'une hallucination, mais il se détacha sur un terre-plein et j'eus tout loisir de l'observer. C'était le tigre bleu de l'Euphrate, félin majestueux, au pelage de lapis-lazuli. Je ne pouvais le quitter des yeux. Sa robe avait l'éclat impossible des pierres précieuses. Je restais interdit, sans peur, mais saisi de surprise, incapable de rien faire. C'est alors qu'il tourna la tête et me vit. Nous nous contemplâmes ainsi dans les brumes rampantes de l'Euphrate, silencieuses et figées comme des statues perses. Et lentement, précautionneusement, il reprit sa marche. Je le suivis au pas. Je pensais qu'il s'enfuirait, qu'il bondirait, mais non. Toujours à la même allure, il s'engagea dans les eaux de l'Euphrate, il semblait presque m'avoir oublié. Je le vis s'enfoncer dans le fleuve et je pensais qu'il allait disparaître, que c'était là une créature des eaux, mais il ne s'enfonça pas, ne nagea même pas. Il marchait calmement et je compris qu'il y avait là un guet. Je le suivis. Nous n'étions plus qu'à une dizaine de pas l'un de l'autre. Il ne semblait nullement effrayé. Il se retournait parfois comme pour vérifier que j'étais bien derrière lui. Nous avancions ainsi, et je ne pouvais détacher mes yeux de ce guide magnifique, bleu comme les colliers des femmes thraces, bleu comme les eaux profondes de la mer Égée, bleu comme les étoffes dans lesquelles les femmes de Cappadoce enroulent leur nouveau-né, bleu comme mon désir et l'éternité. Je le suivis, il me fit traverser l'Euphrate. Et lorsque nous arrivâmes sur l'autre rive, lorsque Bucéphale eut posé son dernier sabot sur la terre ferme, il rugit comme un titan. Ses crocs étaient comme des couteaux d'or. Il rugit en me fixant. Je crus qu'il allait se ruer sur moi, mais ce n'est pas ce qu'il fit. Une dernière fois, il m'observa et bondit à une vitesse impossible droit devant nous, droit vers l'est, disparaissant dans les fougères et les herbes. Ce matin-là, j'ai cessé d'être un conquérant imbécile. J'ai abandonné mon sourire de vainqueur et mes rêves de victoire militaire. Je compris que c'était déjà le tigre, sûrement, qui m'avait guidé dans le désert de Siwa. Pour la première fois, la terre me sembla être un royaume à ma dimension, un royaume que je devais arpenter jusqu'au bout. Le tigre bleu de l'Euphrate m'a logé au fond du ventre une faim infinie, un appétit de bête que rien n'apaise. Le désir était né en moi de foncer désormais sur l'est, toujours plus loin, rattraper Darius, écouter la prophétie de Siwa, manger ces stades de terre qui me séparaient encore du bout du monde. Accepter le tigre bleu comme seul guide à ma vie. ne faire qu'un avec le galop de Bucéphale, respirer par ses naseaux et sentir moi aussi les pierres crépiter sous mes sabots. Ce jour-là, je sus obscurément que c'était l'Orient qui me marquerait de son empreinte sacrée. Je compris que j'étais un roi que rien ne rassasie et que cette faim qui me rongeait les sangs, cette faim de terre, de foule et de vitesse, rien, jamais, ne l'apaiserait jusqu'à la mort.
Magdalena éprouve le besoin de se libérer de ce qui pèse dans sa vie. Elle entreprend de le faire par le biais d'un journal. Gaël Josse, Les heures silencieuses. À l'heure où mes jours se ternissent comme un miroir perd son teint, le besoin de m'alléger de ce qui m'encombre devient plus fort que tout. Je garde l'espoir, naïf peut-être, qu'un tel aveu sera comme l'amputation d'un membre inguérissable qui, pour douloureuse qu'elle soit, permet de sauver le reste du corps. L'affaire remonte à l'année de mes 12 ans. J'accompagnais Saskia, la jeunette d'une quinzaine d'années de notre servante. Nous étions partis visiter une de ses parentes, logeant dans un quartier éloigné du nôtre, un de ces bas quartiers aux portes de la ville, où je n'avais pas le droit de me rendre. La masure de la tante de Saskia était l'une des plus éloignées, posée au bord d'un terrain boueux, inhabité, boisé par endroits de frênes chétifs et de buissons de mûrier. Au beau jour, les enfants du quartier venaient remplir des paniers entiers que leur mère transformait en tartes et confitures. Je n'aurais pas dû me trouver là, dans ces lieux de pauvreté, dont ma mère craignait les miasmes plus encore que le spectacle d'une humanité affligée. Saskia, qui officiait chez nous comme lingère, m'avait proposé en toute innocence de l'accompagner. Trop heureuse de braver l'interdit maternel et de découvrir de nouveaux aspects du monde, j'étais partie avec elle en grande joie. Les premiers soirs d'avril sont traîtres. La fraîcheur, puis la nuit, tombent d'un seul coup, alors que la clarté des après-midi laisse présager encore de belles heures. Nous avions tardé et risquions d'arriver à la nuit. Saskia craignait la colère de mes parents. Je serais grondée, punie, et elle certainement battue et chassée. La seule chance d'arriver assez tôt était de couper au travers de ce vaste champ, en évitant les ruelles tortueuses et nauséabondes. Nous nous élançâmes, enhardis par notre mutuelle compagnie, mais guère rassurés. Autant que possible, nous évitions de nous trouver à découvert et longions les haies et les bosquets. Devant nous, surgirent trois cavaliers au galop. L'un d'entre eux tenait un homme devant lui en travers de sa selle, comme un sac de farine. La scène qui suivit ne dura que quelques instants, mais elle demeure à jamais marquée au fer dans ma mémoire. Les trois hommes mirent pied à terre à quelques mètres de nous, blottis derrière un gros buisson. Ils jetèrent brutalement au sol celui qu'ils tenaient prisonnier, et sans un mot, l'un d'entre eux lui passa son épée au travers du corps. Le sang jaillit sur la chemise blanche. Le deuxième cavalier acheva le blessé d'un coup de poignard au ventre. Le troisième tenait les cheveux en faisant le guet. Nous ne respirions plus, espérant seulement de ne pas être découvertes. Je portais un caraco de lin blanc et priais le ciel de couvrir au plus vite la terre de son ombre pour soustraire ma silhouette au regard. Nous ne fûmes pas découvertes. Les trois cavaliers remontèrent en selle et repartirent au galop sans un regard derrière eux. Il nous fallait passer devant le moribond afin de poursuivre notre chemin. Il nous aperçut, tendit le bras vers nous en articulant quelque chose que nous ne comprîmes pas. Nous le regardâmes, effarés. Le sang avait envahi tout le devant de sa chemise. Il ne portait qu'une culotte de drap foncé. Ses pieds étaient nus. Probablement l'avait-on dépouillé de sa veste et de ses bottes. Il était blond, avec des cheveux longs et des yeux pâles, et tentait de nous faire signe. Nous n'osâmes pas faire un pas vers lui et prîmes la fuite. Nous arrivâmes hors d'haleine, sans nous faire voir, et j'eus le temps de changer ma chemise souillée de terre, griffée par les ronces. Saskia me fit jurer sur la croix de ne rien dire et de tout oublier. Je prêtai le serment demandé, et nous nous évitâmes pendant plusieurs jours. Le drame ressurgit. On découvrit le corps du malheureux garçon et on chercha un coupable. On en trouva rapidement un, ou plutôt une. Une femme qui vivait dans une cabane en lisière de ce funeste champ fut arrêtée, accusée, torturée et condamnée au bûcher. On la disait sorcière, parfois guérisseuse et tireuse de cartes, nécromancienne, succube, en commerce avec Belzébuth et ses anges déchus, qu'elle était supposée pourvoir en sang frais, nécessaire à la confection de ses mixtures diaboliques. Apprenant son arrestation, je voulus parler à Saskia pour révéler ce que nous savions, quitte à avouer notre escapade. Elle me rappela mon serment en me serrant le poignet à m'en faire crier. Un serment est un serment, j'obtempérai et n'endormis pas pendant plusieurs nuits. De ce jour, la tombée du jour m'est un moment éprouvant. Je suis coupable d'un serment qui m'a lié pour le pire, faisant de moi la complice d'un mensonge et de l'exécution d'une malheureuse, de la façon la plus horrible qui soit. Chaque soir, la main tendue du jeune homme assassiné, que je n'ai pas osé prendre, son regard suppliant et terrifié au seuil de la mort, dont je me suis détournée, sa chemise blanche sur laquelle la tache de sang s'agrandissait à vue d'œil, le galop des meurtriers au jour déclinant, tout cela revit en moi avec une précision insoutenable. Je m'en sens coupable, et avoir été une enfant à cette époque n'excuse rien. Coupable de désobéissance, coupable d'avoir laissé condamner une pauvre folle solitaire, incapable d'un geste, coupable d'avoir refusé de donner la main à un mourant, coupable d'avoir juré le silence et l'oubli. Je sais désormais qu'il faut agir selon son cœur, au plus près de ce qui nous semble juste, et ne jamais accepter ce qui nous fait violence. J'ai failli ce jour-là, et le prix de ce manquement est une croix de plomb sur mes épaules.
Thank you.
venez d'entendre des extraits de Zao de Richard Texier, lu par Dany, Le Tigre bleu de l'Euphrate de Laurent Godet, lu par Marie-Hélène, Les heures silencieuses de Gaël Josse, lu par Marie. À bientôt.